Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine ! Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez L'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, des hommages rendus à Franck Darcel, musicien décédé en fin de semaine dernière, une interview pour annoncer Salam, les deuxièmes rencontres du cinéma palestinien à Rennes. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, la rediffusion de l'échange avec TAC35 qui publie un ouvrage sur l'expérience menée au timbre de Maurepas. Et puis la recommandation du jour, c'est une nouvelle exposition à voir aux archives départementales. Bienvenue dans l'Arène. Et on lance l'émission d'information locale avec l'info du jour. À chaque fois, une info que je sélectionne parmi ce qui se raconte dans les médias locaux. Aujourd'hui, évidemment, un mot suite au décès de Franck Darcel, musicien mais aussi écrivain et homme politique, retrouvé mort la semaine dernière sur une plage en Espagne. Il avait 65 ans. Alors, il est connu pour avoir cofondé le groupe Marquis de Sade avec Philippe Pascal, lui décédé en 2019. Guitariste célèbre sur la scène rock des années 80, il avait collaboré avec Pascal Obispo et Étienne Dao, pour lequel il avait d'ailleurs composé le tube « Tombé pour la France » en 1985. Étienne Dao qui, comme d'autres, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux et d'autres ont fait de même. On peut citer Alan Stivell par exemple. Franck Darcel, c'était aussi un écrivain et un homme engagé en politique. On l'avait reçu dans cette émission pour les élections municipales en 2020. Il était alors candidat avec la liste Rennes-Bretagne-Europe, comme lors des élections de 2014. Il avait aussi été candidat sur la liste du Parti breton aux élections européennes, là en 2009. Son credo était le suivant, plus d'autonomie pour la Bretagne, plus d'écologie et plus de démocratie locale. Alors là aussi, les hommages se sont multipliés, par exemple celui de Mathieu Guillard du Parti breton, ou encore de la maire de Rennes, Nathalie Appéré, et du président de région, Loïc Chesnais-Girard. Ça c'était pour les réactions politiques. Côté sport, le Stade Rennais s'est aussi fendu d'un message à celui qui est décrit comme un passionné de foot breton et supporter du Stade Rennais Football Club. On termine sur ce sujet avec un extrait d'un morceau de Franck Darcel, donc recommandé par notre programmateur Yann. C'est un titre de 1983, sorti à l'époque avec le projet Octobre. Paolino Park, c'est le nom de ce morceau.
La jeune femme s'habille, elle se coiffe et s'en va, la pluie s'est arrêtée.
Allez, après l'info du jour, place à une première interview. Anaïs Pitkevitch, bonjour.
Bonjour Lucie.
Je vous présente, vous faites partie de l'équipe de Salam, les rencontres du cinéma palestinien de Rennes qui reviennent pour une deuxième édition du jeudi 21 au mardi 26 mars. Et vous Anaïs, vous êtes présentée comme une spécialiste du cinéma palestinien. En 2022, vous avez passé 3 mois sur place dans le cadre de votre mémoire, on en dit un mot quand même. C'est ce qui vous rend spécialiste ?
Entre autres, oui, c'est ce qui me rend spécialiste. Donc, je travaille dans le cinéma et je me suis spécialisée notamment à travers cette recherche sur l'industrie du cinéma palestinien, pays dans lequel je me rends régulièrement depuis 15 ans. Et j'ai porté une attention particulière à la cinématographie palestinienne.
Et vous étiez en Cisjordanie, c'est ça ?
Moi, j'habitais, oui, à Ramallah, Bethléem, la ville dans laquelle j'ai grandi, en fait, est jumelée avec Halhoul, qui est une ville à côté de Hébron. Donc, avec une petite affection particulière pour le sud de la Cisjordanie.
Et cette ville jumelée que vous évoquez, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans le Morbihan, c'est ça ?
Oui, à Hennebon.
À Hennebon. Alors, vous n'êtes pas seul pour organiser le festival là qu'on annonce, un festival qui est porté par à la fois des étudiants et puis des enseignants de l'Université Rennes 2.
Oui, tout à fait. Alors, je préciserai même plutôt des étudiantes, car il n'y a que des jeunes femmes. Donc, il y a Leïla, Yuna, Morgane, Victoire et Perrine. qui, depuis la première édition, se sont investis dans ce festival, initié par Hussam Hindi, qui est chargé de cours en cinéma à Rennes 2, lui-même palestinien et un personnage assez central, on va dire, du paysage du cinéma rennais, puisqu'il est cofondateur du festival Travelling, il a été directeur artistique du festival britannique de Dinard. Et il y a Muriel Leblois, qui est, elle, enseignante en arabe à l'université Rennes 2.
Donc là, on se retrouve pour annoncer la deuxième édition de cet événement. Alors, que dire du cinéma palestinien ? En 2022, vous expliquiez au média local Ouest France que majoritairement, les Palestiniens ne vont pas au cinéma. Il reste peu de salles qui sont fermées à cause de l'occupation israélienne. Ça, c'était, on va dire, avant l'aggravation de la situation dont on va parler dans un instant. Mais déjà parler d'un accès difficile, en tout cas pour les habitants, aux salles de cinéma.
Oui, là, on est sur vraiment l'angle de la diffusion. En effet, il y a un peu d'accès. Alors, avec le numérique et les plateformes ou autres, il y a un accès qui est plus large puisque Netflix fonctionne et il y a une part non négligeable de films palestiniens sur cette plateforme. Mais pour autant, c'est un cinéma très, très riche en termes de production. Il existe presque 200 cinéastes palestiniens, palestiniennes à travers le monde, aussi bien en Palestine qu'en diaspora. Donc c'est un cinéma très riche en termes de production, qui est majoritairement diffusé, soit à l'étranger, mais aussi sur place via des canaux plus alternatifs, des festivals ou des ciné-clubs.
Et la nature des productions a évolué dans le temps avec aujourd'hui plus de fiction et de documentaire que le cinéma militant des années 70, on le résume comme ça ?
Oui, on va dire ça comme ça, qu'à partir des années 80-90, avec notamment l'exil de l'OLP en Tunisie après la guerre du Liban, il y a eu un délitement, on va dire, du cinéma militant parce que la base était moins présente et davantage de cinéastes, dont un des premiers de cette période, qui est Michel Khlefi, ont commencé à se tourner vers du cinéma de fiction. Et très rapidement, ce cinéma de fiction s'est retrouvé dans les plus grands festivals de cinéma, comme le Festival de Cannes en France.
Vous avez cité l'OLP, donc l'Organisation de Libération de la Palestine. Sur les thèmes évoqués, traités par les réalisateurs palestiniens, on voit qu'il est beaucoup question de la famille, peut-être aussi de la jeunesse, de tradition. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de dessiner l'ensemble des sujets qui sont évoqués par le cinéma palestinien ?
Je dirais qu'en fait, ils parlent de là où ils sont. C'est vraiment très divers. Il y a forcément une volonté, parfois, de parler de la situation de l'occupation en elle-même. Mais beaucoup de cinéastes me l'ont dit également. C'est qu'en fait, ils veulent raconter des histoires. Après, ils parlent d'où ils vivent. Donc, elles sont contextualisées. Mais les thèmes sont en effet très divers. Ils parlent d'histoires d'amour, d'histoire de famille, d'histoire de transmission, de jeunesse. Donc les thèmes sont vraiment très variés, mais ils restent contextualisés.
Sur un territoire particulier, quoi.
Voilà. Tout à fait.
Donc là, ce qu'on évoque, c'était une situation déjà existante, mais on se retrouve dans un contexte qui est aggravé, s'il faut le redire. Depuis l'attaque du Hamas en octobre 2023, la réplique israélienne aurait coûté la vie à plus de 30 000 Palestiniens, essentiellement dans la bande de Gaza. Quelles nouvelles on a en fait du cinéma en ce moment en Palestine ? Est-ce que la production est à l'arrêt ? Et est-ce que du coup, il est d'autant plus important de faire porter les voix des Palestiniens là en ce moment à travers un festival tel que Salam ?
Alors, il est en effet assez à l'arrêt. Pour exemple, Anne-Marie Jassir, qui est une cinéaste palestinienne qui vit entre Haïfa et Bethléem, devait commencer son tournage en octobre dernier de son nouveau film. Et celui-ci a été mis à l'arrêt. Là, aux dernières nouvelles, elle a tourné un petit peu en Palestine, mais majoritairement, elle doit délocaliser son tournage à l'étranger. Donc ça, c'est une des conséquences. Et après, sur place à Gaza, il y a un arrêt total du cinéma. Et là, Rachid Macharaoui, alors je ne vais pas trop en dire sur le projet, mais malgré la situation, fait ressortir Il y a de jeunes cinéastes et de jeunes Palestiniens et Palestiniennes de Gaza qui sont en train de créer à l'heure actuelle plein de courts-métrages et qui donneront lieu à un projet de long-métrage porté notamment par Rachid Macharawi, qui est un cinéaste de Gaza.
Et qu'on retrouve dans la programmation de ces rencontres du cinéma palestinien qu'on annonce, qui se déroule à Rennes du jeudi 21 au mardi 26 mars. On dit un mot sur le film Réminiscence, donc un film documentaire de 2021 qui est projeté samedi 23 mars. Ça se passe à l'Arvor à partir de 21h. Vous souhaitiez en dire un mot ?
Oui, parce que Rachid sera présent à Rennes aussi bien vendredi 22 mars pour la projection de Haïfa que samedi soir à l'Arvor pour la projection de Réminiscence. Et donc, ça nous tenait à cœur de présenter une partie de ses films, sachant que donc c'est un cinéaste de Gaza, mais qui vit en partie en France, et que l'année prochaine, on consacrera une partie de la troisième édition au cinéma de Rachid Macharawi.
Alors, vous l'avez déjà cité, mais je redonne son nom, Oussam Hindi, qui est enseignant en cinéma à Rennes 2, qui est lui-même palestinien. Il explique dans un article qui est à lire en ligne sur le site de l'université que l'objectif du festival, ce n'est pas d'être une tribune, mais bien de montrer la façon dont les Palestiniennes et les Palestiniens font des films aujourd'hui, même s'il y a certains films qui nous ramènent 10, 15 ans en arrière. Pour cette deuxième édition, vous avez décidé de faire un focus sur les Palestiniennes. C'était le souhait, on va dire, des étudiantes qui sont dans l'équipe d'organisation. Comment est-ce que cette idée est arrivée ?
Très rapidement, dès la première édition, quand on a discuté l'année dernière, c'était quand moi je leur parlais, notamment, il y a beaucoup de cinéastes femmes, et il y avait une volonté, en effet, de leur part, de la part à nous toutes et tous, de porter et de montrer les récits de ces femmes, soit cinéastes, soit productrices, soit actrices, qui sont d'une grande richesse.
Et elles sont, enfin, vous dites qu'elles sont nombreuses, mais par rapport à leurs homologues masculins, elles ont vraiment une place importante ?
Ça dépend. À partir du moment où, en effet, on commence à rentrer, on va dire, dans des sphères un peu plus hautes, on va peut-être trouver moins de femmes cinéastes, mais on peut citer Anne-Marie Jassir, qui est une des grandes cinéastes palestiniennes. Mais oui, on trouve quand même majoritairement, là, quand on voit des films palestiniens en compétition, ça va être dans les festivals, beaucoup d'hommes, mais il y a aussi, il y a eu au dernier festival de Cannes, il y a 2 ans, Maha Haj, qui est une cinéaste palestinienne également.
Extrait de Fièvre méditerranéenne, un film réalisé par Maha Haj et primé pour son scénario au Festival de Cannes 2022 dans la catégorie Un certain regard. Donc là, du 21 au 26 mars, le public il va pouvoir découvrir près de 20 films dans différents lieux de la métropole, à la fois sur le campus de l'université Rennes 2, mais aussi à l'Arvor, au TNB, au Sévigné, du côté de Cesson. Vous avez choisi de mettre en lumière une comédienne et réalisatrice en particulier, qui, si tout va bien, sera présente lors de l'événement ?
Alors, malheureusement, elle est en tournage. On l'a appris il y a peu de temps avec Costa Gavras cette semaine. Donc, Yamabas ne sera pas là. Mais Lina Swalem, donc sa fille qui a réalisé Bye Bye Tibériade, qui est un magnifique documentaire et qui fait l'ouverture du festival jeudi soir au TNB à 20h, donc sera présente. Et a souhaité, à travers son film, revenir sur son histoire familiale. Et donc, on retrouve Yamabas. Et on a un peu tiré le film de cette histoire et de ce film en voulant faire un focus, en effet, sur Yamabas, qui est une grande comédienne et qui a elle-même réalisé un film, Héritage, qu'on diffusera vendredi soir.
Donc Héritage, c'est à voir vendredi à 21h au cinéma du TNB. Je lis les quelques lignes de présentation. Une famille palestinienne se rassemble dans le nord de la Galilée pour célébrer un mariage dans un climat de guerre. Lorsque le patriarche tombe dans le coma, les conflits internes font exploser peu à peu l'harmonie familiale, révélant secrets et mensonges jusqu'alors enfouis. Ça, c'est pour le film donc à voir, réalisé par Yam Abbas, qui est la femme que vous mettez à l'honneur durant cet événement. Nothing around here is easy. I know.
Maybe it's time they knew about us.
Maybe.
peut-être que certains ne la connaissent pas, mais elle a été, elle a joué dans de nombreux films et également dans la série Succession. Donc certains et certaines peuvent la connaître à travers cette série. Et que dire, que c'est une comédienne extraordinaire à découvrir sous un nouveau jour dans le documentaire de sa fille Lina Swalem, Bye Bye Tiberiade, ou dans Haïfa, le film de Rachid Macharawi. Et elle est également dans le film Cliché de Nadine Naous, qui est un court-métrage qui a été tourné à Rennes avec Guillaume Abbas et qui sera diffusé à l'Arvor dimanche à 21h.
Donc un film à découvrir un peu plus tard dans la semaine et c'est vraiment le film Bye Bye Tiberiade qui permet de découvrir son parcours puisqu'elle en est le personnage principal. Yam Abbas a quitté son village palestinien pour réaliser son rêve de devenir actrice en Europe, laissant derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses 7 sœurs. 30 ans plus tard, sa fille Lina, la réalisatrice, retourne avec elle sur les traces des lieux disparus et des mémoires dispersées de 4 générations de femmes palestiniennes. Un film à voir jeudi 21 mars au cinéma du TNB à partir de 20h.
Et moi, je ressemble à qui, du coup ?
À personne.
Et là, c'est nous quatre. Les 4 générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Dar Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne.
Salam, les deuxièmes rencontres du cinéma palestinien, c'est aussi une soirée de court-métrage à vivre samedi 23 mars à partir de 17h30 au cinéma du TNB. Ce sont 4 films qui seront présentés au public. Et puis les autres jours, différents genres qui sont présentés puisqu'il y a des documentaires, des films de fiction, certains qui comprennent un peu de l'animation. Il y a aussi de la science-fiction. Est-ce qu'il y a un coup de cœur à recommander parmi tout ça, Anaïs ?
C'est difficile comme question. Je dirais peut-être les courts-métrages, parce qu'en effet, les cinéastes palestiniens et palestiniennes sont vraiment excellents sur ce format. Et donc là, sur cette séance de courts-métrages palestiniens, on a décidé de se focaliser sur, de manière générale, le genre, mais il y a à la fois du genre de science-fiction un peu expérimental, mais pour montrer justement qu'à travers ce format court, cette richesse du cinéma palestinien qui peut sortir parfois des images préconçues qu'on peut avoir à travers des documentaires ou de la fiction, et que le cinéma palestinien est tout aussi riche que n'importe quel autre cinéma.
Et au-delà des projections qu'on vient d'annoncer, il y a aussi des ateliers, des conférences qui sont proposées. Ça a commencé dès ce lundi 18 mars. Le temps fort, c'est quand même la conférence du lundi 25 mars, la semaine prochaine, à 18h. Ça se passe au Tambour ?
Oui, tout à fait. Et ça sera une rencontre avec Nadine Naous et Oula Tabari, donc deux cinéastes, qui elles sont également actrices, productrices. Donc il y a vraiment, elles ont toutes les casquettes. Et c'est Hussam Indi qui animera cette rencontre. Donc, ça sera sur un peu, c'est la conférence avec le thème fil rouge de cette édition, sur la place des femmes palestiniennes dans le cinéma. Et elles reviendront à la fois sur leur parcours, leur travail, lors de cette conférence.
Et pour voir leur film, et ce sera la veille du côté de l'Arvor, où seront présentés les films d'Oula Tabari et Nadine Naous à partir de 18h. Donc des films qui ont été produits entre 2002 et 2009. On dit aussi aux auditeurs qu'il y aura une autre conférence donc sur le thème du cinéma palestinien en compagnie d'Oussam Indi à l'Université Rennes 2. Ça, c'est le 19 mars à partir de 9h30. On le redit, Oussam Indi, qui fait partie de l'équipe de l'événement qu'on annonce, qui est professeur en cinéma, et aussi des ateliers, on va dire plutôt sur le volet culturel de la Palestine tout au long de la semaine. C'est encore possible de s'inscrire ?
Oui, tout à fait. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Donc, il y a à la fois des ateliers de danse, de la danse d'Apke, qui est la danse traditionnelle qui est dansée à peu près par tous les Palestiniens et Palestiniennes, toutes générations confondues, des ateliers cuisine, et des ateliers calligraphie. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire en réservant auprès de l'adresse mail du festival.
qui est le festival salam@gmail.com pour participer à ces ateliers qui sont organisés durant le festival. Je vous représente Anaïs Pitkovitch, vous faites partie de l'équipe de Salam, les rencontres du cinéma palestinien de Rennes, qui reviennent là pour une deuxième édition du jeudi 21 au mardi 26 mars. Le détail est à retrouver en ligne sur une page Facebook du festival Salam, et on ajoute que pour prolonger l'événement, le service culturel de Rennes 2 fait venir l'ensemble Chakam, c'est jeudi 28 mars au Tambour, avec notamment Christine Zayed qui est joueuse de kanoun. Merci beaucoup Anaïs.
Merci beaucoup Lucie. I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation, how could they be so evil? Making mortars out of children and innocent people. We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes, living the times, trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, fighting with grief. White sheets covered by his death. Lie on the streets, buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. Won't lose the will to live or lose our minds. My auntie lost her home, so she lost her life. But she is still alive, but traumatized by the bombs that flew in and dropped that night. My sister couldn't sleep, tried to stop her cries. I said it was fireworks, I was telling her lies. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness. Cutting off water and electricity for hours. They're knocking towers, but that's not knocking the power that I have in my pen. When I'm writing, I'm unstoppable. The microphone is the only escape possible, 'cause that's the way that I can speak my mind. I wonder how does the fighter pilot sleep at night, knowing he can turn the city upside down all of a sudden. Slaughtering families with the push of a button. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation.
À l'instant sur Canal B, c'était le choix musical d'Anaïs Pitkovitch, qui fait partie de l'équipe organisatrice des deuxièmes rencontres du cinéma palestinien organisées cette semaine. Et elle a choisi le titre Shooting at the Wall par MC Abdul, un rappeur palestinien gazaoui de seulement 15 ans. Vous venez de l'entendre dans l'arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B, à écouter sur le 94.0, mais aussi en ligne sur canalb.fr, un site internet où vous pouvez par ailleurs retrouver les podcasts des émissions réalisées par les salariés, mais aussi par les bénévoles, puisque Canal B est une association qui fête ses 40 ans cette année. Tiens, en passage, on est en train de vous préparer plusieurs événements pour fêter ça. Et eh bien, on va continuer l'émission du jour avec une deuxième interview qui a été diffusée dans cette émission le 7 mars dernier. Alexine Malawi, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes chargée de mission révélateur chez TAG 35. Le timbre, une occupation temporaire à Maurepas, c'est le titre d'un ouvrage dont vous avez, on va dire, coordonné la réalisation, mais avec d'autres personnes qui se cachent derrière, on va en parler. Ce livre, il est en pré-vente jusqu'au 19 mars en passant par la plateforme de financement participatif kisskissbankbank.com. Et pour revenir aux présentations, TAG 35, on vous a déjà reçu plusieurs fois, c'est une asso, un incubateur qui est spécialisé dans l'économie sociale et solidaire en Ille-et-Vilaine. Vous êtes installé au Quadri dans le quartier du Blône à Rennes et vous accompagnez des entrepreneurs, mais en fait à différents stades de leur projet.
On accompagne tant des entrepreneurs qui ont déjà leurs idées et qui viennent se structurer et faire en sorte de sortir avec un métier, avec une structure bien prête et un modèle économique assez pérenne pour se financer, en tout cas de l'emploi. Et on accompagne aussi des idées. On a aussi tout un accompagnement autour de l'émergence, passer de l'idée au projet, pour voilà, déjà savoir ce que c'est qu'entreprendre, comment le faire, avec qui, comment s'entourer. Et on a aussi tout un pan qui s'appelle donc le révélateur, comme vous l'avez bien dit, c'est comment on aide et on accompagne des collectivités et des personnes sur des territoires à formuler des idées de projets économiques, sociaux et solidaires.
En fonction des besoins qui sont identifiés sur le territoire, quoi.
C'est ça. Soit la collectivité a un bâti, là c'est le cas du timbre pour le coup, un bâtiment dont ils ne se servent plus et ils ont envie de l'utiliser de façon positive et de façon ESS, donc nous on va les accompagner à créer en fait des choses assez, assez sympas à ce niveau-là. Soit c'est nous qui faisons des diagnostics de territoire, on va voir, on va aller questionner les habitants, les structures associatives pour savoir s'il y a des manquements, que ce soit en termes de commerce, en termes d'activité économique, et on va accompagner à formaliser tout ça.
Le timbre de Morpa, c'est l'un des projets qui est collaboratif et que vous avez accompagné. Il faut commencer par resituer les lieux parce qu'on n'est pas dans le cœur du quartier Morpa. On est un peu éloigné de la place du Gros Chêne qui est bien connue. On est donc dans les locaux d'un ancien bureau de poste, mais il faut le chercher pour le trouver.
Il faut le chercher pour le trouver, exactement. Et c'est vrai que ceux qui connaissent La Poste venaient encore d'ailleurs. On a appelé le livre La Poste à 100 mètres parce que c'était un peu le truc qu'on disait à tout le monde.
Le running gag.
Exactement. Tout le monde cherchait le timbre, ou pas d'ailleurs, ou La Poste qui a déménagé à 100 mètres de là. Donc c'était assez drôle. C'est un lieu du coup assez typique. En fait, il y avait une dalle, comme il en existe pas mal dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, une grosse dalle où vous imaginez un Intermarché. Il y avait un Trocadéro à l'époque qui avait déménagé un petit peu plus loin, qui n'est plus aujourd'hui. Il y avait une poste, il y avait un cabinet photographique, pardon. Il y avait toutes ces choses-là qui font vivre un peu le quartier. Et tout ça a été bougé, soit quelques mètres plus loin, soit totalement déménagé dans une autre partie du quartier de Morpa. Et là, on est vraiment sur ce qu'on appelle le guest, donc un endroit assez reconnu en tout cas par les personnes qui l'habitent depuis longtemps. Et c'était un endroit où il y avait pas mal d'activités, notamment associatives. Et en fait, c'était un lieu de vie, un lieu de passage entre l'école des Gantelles derrière et une place qui a été totalement rénovée aujourd'hui, qui s'appelle la place Aubrac, donc à deux pas du nouveau métro maintenant. Et du coup, effectivement, il fallait connaître un petit peu pour trouver ce lieu. Mais les activités qui ont pu occuper le lieu ont fait qu'il y a eu une ouverture et de fil en aiguille, les personnes ont pu s'orienter et l'identifier exactement.
Il faut dire que donc, ce bout de quartier-là est concerné par une opération de rénovation urbaine. Vous avez donc disposé d'une surface de 240 mètres carrés mandatée pour animer ce projet par l'aménageur Territoire Public. Et donc l'occupation qui dès le départ était prévue pour être transitoire avant des travaux sur ce secteur, eh bien l'occupation elle a duré 33 mois à partir du printemps 2022. Ambiance.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Vous êtes passé dans le coin, vous avez vu de la lumière.
Oui.
Et vous vous êtes dit je vais aller manger.
Voilà.
Et bien c'est une bonne idée.
Et comment je fais pour passer la table?
Eh bien écoutez, le mieux, je pense que celle-là va être bien adaptée. Vous êtes le premier à arriver.
Ah.
Est-ce qu'elle va être un bon...
Eh bien justement, je vais voir.
Vous testez, sinon peut-être ici ce sera mieux.
Qui sont les acteurs qui ont fait vivre ce lieu? Ils étaient 9 colocataires, on les présente comme ça.
C'est ça, ils étaient 9, en tout cas le noyau dur qui habitait, on les appelle les colocs parce qu'ils avaient comme chacun leur chambre en fait. Dans les anciens, il faut imaginer un bureau de poste comme il y en a plein, comme on retrouve partout en France, avec un espace d'accueil où il y avait un comptoir, donc ça c'était l'espace collectif, où il y avait la cuisine de la fratrie par exemple, la cantine, où venaient tous les mercredis midi des gens pour manger. Et quand on arrivait, il y avait des anciens bureaux. Du coup, on a installé une librairie, la librairie de l'Astrolabe, qui est venue se tester avant d'avoir sa librairie définitive, qui est très jolie d'ailleurs, sur la place Aubrac. Je vous invite à aller la voir. Et derrière, on a un atelier d'artistes où Aurélie Le Forestier, qui est plasticienne, a pu s'installer avec un espace de récupération où les gens pouvaient venir se servir, bricoler, faire des choses avec elle. Et derrière, il y avait tout un espace, donc anciennement la salle de poste de la Poste, donc des postiers qui, je le rappelle, étaient encore en occupation en dessous. Le centre de tri de Rennes-Nord est encore en occupation. C'est ce qui nous a permis justement de pouvoir accéder à ce lieu. Donc on les remercie encore de nous avoir prêté leur ancienne poste. Et du coup, on partageait ce lieu-là, la cuisine. C'était rigolo parce qu'il y avait un postier qui venait tous les matins. Il venait quand même boire son café alors qu'ils ont une nouvelle salle de poste en dessous. Mais il venait là et on le retrouvait. Et on, du coup, on se partageait cet espace pour cuisiner le mercredi midi avec la fratrie et le vendredi avec la militante Bouille. Donc, il y a une autre activité de restaurant qui fait du lien social entre les personnes qui sont sur le quartier, qui sont parfois isolées et qui ont juste envie ou besoin d'ailleurs de venir cuisiner ou de raconter, un peu se raconter à travers la cuisine. Et c'était vraiment un espace... un peu hors du temps et où il s'est passé tellement de choses. Donc il y avait les colocs vraiment qui sont venus et qui se sont installés et qui restaient de manière pérenne. Il y a aussi des gens qui sont venus de façon, soit ils étaient invités, soit ils faisaient des collaborations avec les occupants, ce qui fait qu'ils se sont aussi appropriés le lieu. Et surtout, c'était un lieu qu'on voulait le plus ouvert possible. Donc les habitants qui avaient envie d'exposer parce qu'ils faisaient un peu de peinture chez eux ou de parler de choses qui leur tenaient à cœur. Je pense notamment à Rocio, une habitante du quartier qui avait fait un petit traité sur la contraception et les règles, qui est venue exposer ses planches pendant un mois et qui a pu faire une petite activité autour des règles et de la contraception pour parler de ça aux habitants. De base, c'est un lieu qui est teinté d'artisanat et de savoir-faire, mais au fil du temps, en fait, on s'est aperçu que les habitants et les habitantes avaient besoin aussi d'un lieu assez neutre, et c'est Aurélie qui le raconte bien dans le livre. Elle raconte que ce qui était chouette avec le temple, c'est qu'il n'était pas estampillé social ou pas estampillé, donc ça permettait aussi de se révéler, de s'ouvrir et de venir sans forcément avoir besoin de quelque chose. Mmh. Et des lieux comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'on ne le croit, mais c'est vrai qu'il en faut limite plus, parce que ça permet, au-delà de tester son activité, ça permet aussi de venir sans prétexte. Et c'est rare aujourd'hui d'avoir des lieux où tu peux venir sans prétexte. Mmh.
Vous avez cité Aurélie, c'était la plasticienne du timbre de Maurepas. Est-ce qu'on a cité tout le monde ? On en a oublié ou pas ?
Du coup, je vais peut-être récapituler. On avait la fratrie du quartier, donc une cuisine sociale et solidaire qui travaillait avec des personnes qui avaient des troubles psychiques. Il y avait l'Astrolabe, qui est une librairie coopérative. Qui porte aussi une maison d'édition, tout à fait, qui s'appelle Argile, la maison d'édition. Et eux, ils venaient vraiment tester leur activité pour voir comment ça prenait. Ça leur permettait d'avoir déjà un petit pied sur le quartier, de bénéficier évidemment de foncier moins cher et aussi de se faire connaître. Il y avait le café associatif qui était du coup historiquement sur la dalle, qui est revenu après avoir déménagé dans plusieurs endroits sur le quartier. Et c'est assez symbolique parce que le café est parti avec le timbre, donc il s'est éteint entre guillemets le 31 décembre comme le timbre, faute de bénévoles pour reprendre l'activité. Hervé et Catherine étaient là depuis des années et ils avaient besoin de partir. Enfin voilà, ils étaient un petit peu fatigués, mais eux ils étaient ouverts le mardi et le jeudi. Là, il y avait plutôt des personnes âgées, habituées, qui venaient anciennement au café, qui retrouvaient le café le mardi, surtout jour de marché. En fait, c'était un lieu de passage, donc ils venaient soit avant, soit après de faire leurs courses. Et c'est vrai que c'était rigolo parce que on voyait d'autres personnes qui côtoyaient encore d'autres personnes. Et le timbre, c'était vraiment un lieu de rencontre de gens qui ne se seraient sûrement jamais croisés. Et c'est ça qui était hyper intéressant, en tout cas à mes yeux. Il y avait les gars d'Aibro, donc les appellent les frères du coup, qui rentraient et qui sortaient. Ils ont un food truck, ils avaient leur laboratoire culinaire au timbre, donc dans un ancien bureau aussi. Et eux, ils venaient, ils sortaient et c'était rigolo parce que on les voyait avec leurs caisses comme ça de nourriture. Et souvent, on les appelait un peu les colocs qu'on voit pas trop.
De passage.
Exactement, de passage, mais ils sont là et ils sont toujours là. Et ce qui était chouette, c'est qu'il y avait... Ça a pris un peu de temps, mais il y avait vraiment une ambiance familiale et une ambiance très simple au final, mais de gens qui se rendaient service, qui s'appelaient aussi pour savoir comment ça va, qui se rendaient visite aussi dans leur... dans leur lieu de vie, et c'était assez chouette. Et du coup, il y avait Aurélie dont on parle, qui avait son atelier derrière. Elle avait son grand atelier où elle pouvait vivre un peu de sa pratique. Son objectif, c'est de vivre aussi de sa pratique artistique personnelle, mais elle faisait aussi des projets avec des structures du quartier, avec des structures aussi brétiliennes. Et elle, son atelier, c'était vraiment, c'est devenu un peu sa maison, et c'était, je pouvais beaucoup me reposer sur elle, parce que moi, j'étais pas là tous les jours, et elle avait vraiment le sens de l'accueil, et c'est devenu un peu la régisseuse du lieu. Et enfin, il y avait donc la mini tambouille, on a parlé, qui est arrivée un peu plus tard pour faire de la cuisine, des ateliers cuisine autour des envies des habitants. Et la Loupiote, qui avait une association autour du jardin, autour des plantes, et qui, elle, proposait donc des ateliers, des discussions justement autour des plantes médicinales, des plantes aromatiques, qui faisait aussi beaucoup de tisanes et qui ouvrait la parole autour de sujets tels que la puissance féminine, ce genre de choses que... C'était rigolo parce que quand on parlait de ça et qu'il y avait le café et les membres du café à côté, ça, c'était des mondes qui s'entrechoquaient, mais chacun avec leur histoire et leur parcours, et le fait d'être ensemble au sein de ce lieu, ça faisait vraiment quelque chose d'intéressant, et c'est pour ça que le timbre, quand on nous demande de l'expliquer, faut expliquer tout et tout le monde, sinon on peut pas le comprendre, et faut le vivre.
La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces projets continuent à vivre après la fin du timbre de Maurepas. Hormis le café associatif, vous venez de le dire, qui a pris fin. Le clap de fin de ce projet, là, le timbre de Maurepas, c'était en décembre 2023. Vous avez décidé de prolonger l'expérience en la racontant dans un ouvrage de 64 pages. Le timbre, une occupation temporaire à Maurepas. La poste, c'est à 100 mètres. Vous vous êtes entouré de professionnels pour réaliser ce livre-là. Vous nous dites lesquels ?
Oui, bien sûr. Du coup, cette belle expérience, on ne voulait pas qu'elle reste dans les cartons, et qu'elle reste surtout dans les têtes de celles et ceux qui l'avaient vue et vécue. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de professionnels. On a eu la chance d'avoir des professionnels autour de nous pour créer cet ouvrage on est hyper contents parce qu'en plus il rend bien. On a été accompagné d'une super graphiste qui s'appelle Anne-Laure Bombay, et d'une chouette structure qui s'appelle les Trois Ours Média, qui est toute neuve pour le coup, et qu'on connaît parce qu'il y a des personnes au sein de ce média qui appartenaient à la Grenouille à Grande Bouche.
La Grenouille à Grande Bouche, c'était un restaurant et une revue participative installée dans le quartier du Blône, aussi sur une occupation temporaire d'ailleurs.
Tout à fait. On aimait manger là-bas, on aimait feuilleter la revue aussi, et qui a été accompagnée par Tag il y a plusieurs années maintenant. Donc c'est vrai, de créer tous ces liens aussi. On voit la force des structures ESS sur Rennes, et on a la chance d'avoir à Rennes une politique publique assez chouette aussi sur l'utilisation du bâti et des locaux. On sait qu'il y a une grosse tension foncière, mais on sait aussi que la ville est prête à faire, à nous proposer des locaux. J'espère que l'expérience du timbre fera qu'on pourra en bénéficier encore plus, et qu'on pourra voir fleurir des timbres bis un peu partout. Et l'idée dans cet ouvrage, c'est vraiment... Alors, il y a une partie récit sensible où on va vraiment... voir un peu et lire ce qui s'est passé au sein du timbre et comment est-ce que ça a été vécu par chaque occupant. Mais on a vraiment voulu aussi avoir une petite prise de hauteur politique par deux élus qui connaissent bien le quartier, Marion Deniaux et Priscilla Zamor, qui apportent aussi une vision un peu plus structurante de ce que c'est que l'occupation temporaire, notamment en quartier politique de la ville. Et on a toute une partie un peu plaidoyer, clé de lecture, facteur de réussite et frein aussi. On n'a pas voulu rendre les choses trop lisses. On a voulu être en tout cas le plus sincère possible dans ce livre. On voulait aussi montrer ce qui a été un peu plus compliqué pour qu'on puisse potentiellement se saisir d'autres locaux, d'autres bâtis et avoir ça en tête. Donc ça peut paraître tout bête, mais c'est des choses qui fonctionnent, et notamment le rôle un peu clé d'avoir quelqu'un qui coordonne et qui anime tout ça, qui soit ni étiqueté
aménageur
et institutionnel, et qui soit entre deux en fait, qui soit pas non plus au quotidien là, ou alors au quotidien là mais avec une autre casquette. Et ce qui fait que ça peut, c'est vraiment un rôle de tampon. Et c'est important d'avoir un rôle de tampon parce qu'on l'a vu au sein du timbre, c'est des mondes qui s'entrechoquent, et il n'y a pas forcément les mêmes discours, il n'y a pas forcément les mêmes mots, et on a des réalités totalement différentes, et c'est important de comprendre les uns et les autres pour faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde.
Il faut dire que ce modèle-là, il se développe depuis plusieurs années à Rennes, d'avoir donc des occupations temporaires de lieux qui sont ensuite amenés à être transformés et réhabilités. On peut citer par exemple le BAM, le bâtiment à modeler, qui est installé dans l'ancienne Antipode, dans le quartier Clonay, qui accueille toujours des occupants. L'idée avec ce livre, c'est donc de proposer à la fois un récit des occupants, mais surtout de prendre de la hauteur sur l'intérêt d'une telle expérience. Vous parlez d'inconvénients, on imagine que l'inconvénient majeur, c'est l'instabilité qui est propre en fait au contrat qui vous lie à l'aménageur et à Rennes Métropole.
C'est ça, c'est une instabilité, mais qu'on connaît dès le départ. Et d'ailleurs, ce qu'on dit, enfin, vraiment un des facteurs, une des clés pour nous, c'est d'être au clair sur la durée de l'occupation dès le départ, même si parfois on peut être tenté les uns les autres de vouloir un peu plus, de tirer un peu la couverture, mais c'est important d'avoir une date de fin, déjà pour les personnes qui occupent, parce qu'elles peuvent plus facilement se projeter sur la suite. Mais c'est vrai que vous citiez le BAM, mais c'est juste, en fait, on voit que, en tout cas, les expériences qu'on a pu aller interroger, quelles que soient les structures qui se saisissent de lieux comme ça, en fait, ça donne des choses hyper chouettes. Enfin, le BAM, c'est un lieu génial où il y a, pour le coup, ils ont vraiment réussi à ce que le lieu il soit vraiment traversé par le quartier, par les habitants, et c'est hyper chouette parce qu'il y a plein d'initiatives qui naissent de ça. Et c'est vrai que nous, le fait qu'on soit un peu en plus en dehors, alors on était dans le quartier, mais on n'était pas forcément très visible, on a dû aussi imaginer des choses pour pas forcément créer une programmation. Au début, on voulait faire des trucs, programmation limite jour après jour, mais en fait, l'idée, c'était quand même de proposer des locaux à des personnes qui avaient besoin de locaux pour travailler. Et leur activité principale, c'était pas de créer de la programmation sur le quartier, même si c'était un point de leur activité. Leur activité principale, c'était de rester, en fait, d'être et de rester sur le quartier. Et c'était important pour eux de créer, en tout cas sur le quartier. Et donc ça, pareil, il faut ajuster et il faut vraiment être au clair sur ce qu'on attend des personnes, et faut pas chercher à forcément que ce soit hyper ouvert, accessible dès le départ, parce que ça prend du temps, et plus on prend du temps et plus on est patient avec ça, plus le lieu in fine il devient intéressant.
J'en profite pour glisser au passage, on a dit que la plupart des projets étaient toujours en activité. Il y a quand même donc Aurélie, la plasticienne du groupe, qui cherche toujours un local pour son activité d'artiste plasticienne. On en glisse un mot ici, s'il y a des auditeurs qui ont un local, voilà, qui sert à rien, dans le quartier Maurepa, idéalement. Et donc cet ouvrage, il est actuellement en pré-vente dans le cadre d'une campagne de financement participatif sur la plateforme kisskissbankbank.com. Le tarif pour le livre seul, c'est 25 €, et la campagne, elle est en cours jusqu'au 19 mars. Combien vous éditez est-ce qu'on pourra le trouver ailleurs après la prévente? Ça marche comment?
Alors, c'est un livre qu'on a voulu le tirer à 500 exemplaires. On a déjà pu vendre une partie, en tout cas, on a proposé une partie à la collectivité. Là, l'idée sur cette plateforme, c'est de vendre 100 exemplaires. Là, on a un peu plus de la moitié. C'est pour couvrir en fait les frais liés à sa conception, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Et il sera peu disponible en librairie. Et on va pas retirer. Nous, l'idée, c'est qu'on veut pas que ça finisse en cale-porte ou des choses comme ça.
D'en avoir trop sur les bras.
C'est
aussi.
Ça, on veut pas en avoir trop sur les bras. On sait bien que c'est quelque chose qui, de prime abord, va pas intéresser entre guillemets. Tout le monde, mais en fait, je l'ai relu encore hier et je l'ai déjà relu plein de fois. Mais le fait de le lire en livre, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une super chouette histoire et qu'on prend plaisir à la lire. Et c'est beau, juste c'est beau, et c'est intéressant de voir comment au sein de Rennes, il y a des lieux comme ça qui se transforment. Il y a des gens aussi, c'est raconter les gens au-delà des lieux. Et c'est aussi pour les personnes qui l'ont traversé et celles qui n'ont pas pu y aller, une occasion de découvrir tous les bénéfices qu'on peut tirer, en tout cas, de ces occupations. Et du coup, ce sera peu vendu en librairie, même si on en laissera quelques exemplaires, notamment à l'Astrolabe et à l'Établi des mots au Quadri, en dessous du Quadri. En tout cas, on a voulu raconter cette histoire. On sait qu'elle ne sera pas parfaite, comme l'occupation n'a pas été parfaite, mais c'est aussi chouette de pouvoir rendre compte de choses simples et moins simples, d'ailleurs. Mais,
et d'une expérience collective. On peut ajouter que des cartes postales et des affiches sérigraphiées signées de l'illustratrice rennaise Valérie Valéry Soriano sont également proposés, toujours sur la plateforme de financement participatif kisskissbankbank.com. Et c'est le moment où je vous représente Alexine Malawi. Vous êtes chargée de mission révélateur chez TAG 35. On redonne le titre de l'ouvrage dont on a parlé, Le timbre, une occupation temporaire à Maurepas. 64 pages pour revivre cette expérience menée dans le quartier de Maurepas jusqu'en décembre 2023. Merci beaucoup.
Merci.
River into Lake avec le morceau Don't Drive into the Tree. C'était une nouveauté musicale présélectionnée par Yann, notre programmateur ici à la radio. Et c'est ce titre, vous pouvez le retrouver sur un album Rise and Shine. C'est sorti le 23 février et c'est le troisième disque pour le projet solo de Boris Gronenberger, un personnage incontournable de la scène musicale belge, puisque passé entre autres par la formation Girls in Hawaii. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous. Parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle exposition des archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Ça s'appelle Stratégie de l'effacement et c'est à voir depuis le 15 mars et jusqu'au 25 avril aux archives qui sont donc situées dans le quartier Borgard à Rennes. Alors, ça raconte quoi ? Ça raconte raconte finalement l'histoire de la photographe qui a mené ce projet. En effet, Lydie Turco a exhumé l'histoire méconnue de nombreux réfugiés espagnols qui ont fui l'Espagne en 1939 lors de la guerre civile. À travers 10 lieux, 10 récits familiaux et une sélection d'archives, l'artiste rappelle les difficiles conditions d'exil de ces familles hébergées sur le territoire français. Et parmi ces lieux, il y en a un de la région rennaise, le camp de Verdun, à Saint-Jacques-de-la-Lande, où les grands-parents de la photographe Lydie Turco ont séjourné. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la commémoration par le département du 85e anniversaire de la Retirada. La Retirada, c'est l'exode vers la France de plusieurs centaines de milliers de républicains espagnols suite à la prise de Barcelone par les franquistes. C'était en 1939. 3000 Espagnols avaient alors trouvé refuge en Ille-et-Vilaine dès 1937 et jusqu'à l'après-guerre. Stratégie de l'effacement, c'est donc à découvrir gratuitement, on précise, aux archives départementales à Rennes jusqu'au 25 avril, le premier temps d'une programmation autour des mémoires de la Seconde Guerre mondiale, dont on reparlera dans l'émission au début du mois d'avril. Le programme complet est à retrouver en tout cas en ligne sur le site archives.ille-et-vilaine.fr. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.